Femme novatrice.
Femme novatrice.
Femme novatrice avec Sophie Nanin.
Bonjour et bienvenue à Femme novatrice pour écouter et partager avec vous les échos de leur challenge. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Salomé Géraud, cofondatrice du Drive Tout Nu, femme innovante et qui change notre quotidien. Bonjour Salomé.
Bonjour Sophie.
Ravie franchement de vous accueillir.
Merci pour l'invitation.
Merci de l'avoir accepté. Là, vous êtes vraiment dans le schéma des champs des possibles. Vous alliez technologie et environnement, on va dire
c'est
ça.
C'est l'idée, voilà.
Voilà, et vous humanisez tout cela pour la simple raison que le Drive Tout Nu, vous allez donc nous expliquer, est un beau challenge. Et puis surtout, vous l'avez fait en binôme avec
Absolument.
Une personne très importante. Alors, est-ce que déjà là, pour nos auditeurs, vous pouvez un peu expliquer le pourquoi du Drive Tout Nu, mais qui vous êtes aussi, parce qu'il y a sensibilité, passer à l'action, enfin... Beaucoup
Bien
de choses
sûr.
Qui vous caractérisent.
Oui, alors donc je suis effectivement la cofondatrice du Drive Tout Nu, qui est un projet magnifique qu'on a monté en famille, puisque je l'ai cofondé avec mon mari en 2017. C'est une enseigne zéro déchet, donc avec des drives et des supermarchés zéro déchet. Et l'idée, c'est de simplifier cette consommation responsable en la rendant plus pratique, plus accessible à tout le monde pour que ça passe à l'échelle et qu'aujourd'hui, consommer responsable, ça ne devienne pas un acte militant, quelque chose de compliqué, mais au contraire, que ce soit aussi simple de venir dans une enseigne zéro déchet que d'aller dans n'importe quelle enseigne de la grande distribution. Donc, c'est vrai qu'on l'a créé à deux. L'idée vient de Pierre, mon mari, parce que lui, c'est un pro, j'ai presque envie de dire un maniaque de la récupération. C'est-à-dire qu'il garde absolument tout. Toutes les déchets sont des ressources.
Oui, mais en même temps, la récup aujourd'hui, c'est un mot noble quand même.
Ah oui, non, mais c'est vrai que le réemploi...
c'est quand même pas mal du tout. Mais très précurseur quand même, ça a servi effectivement de pouvoir bosser ensemble. Mais vous étiez très précurseurs tous les deux parce que le démarrage est quand même vers 2010, on va dire,
Exactement.
Où les réflexions se sont lancées.
Exactement.
Aujourd'hui, 2024, vraiment très novateurs tous les deux.
Bah, c'est vrai qu'on avait ce côté, on avait envie de monter cette entreprise. On s'est rencontrés à San Francisco tous les deux. San Francisco, c'est une ville qui est très pionnière dans la gestion des déchets. C'est en plus une ville où il y a beaucoup d'énergie entrepreneuriale, évidemment, parce qu'il y a la Silicon Valley juste à côté. Donc voilà, on avait beaucoup d'énergie, sauf que on avait très peu de moyens. On ne savait pas comment s'y prendre. En 2012, il n'y avait même pas d'épicerie vrac.
Ben oui.
La première,
c'est
2013 en France, donc il n'y avait rien du tout. Donc voilà, on a essayé un petit peu, puis on a un peu mis l'idée de côté pour la relancer en 2017, où on a croisé la route du parc Parcours entrepreneur du Ticket for Change, qui est l'école des acteurs du changement. Et ils nous ont aidés à passer de l'idée, en fait, de cette idée de créer une enseigne, un supermarché des drives zéro déchet, au premier pas concret du projet. Parce qu'il y a quand même une différence entre avoir quelque chose dans sa tête et puis le faire sortir de terre et que ça...
Ça fait plaisir d'entendre. Parce qu'effectivement, il y a choisir et décider.
Bien sûr.
Mais aller sur le terrain et on se lance, effectivement, il y a une grande, grande différence. Mais alors là, justement, quand vous dites 2012 et après 2017, ça veut dire que 5 ans par rapport à cela, on n'avait rien lâché. Détermination, réflexion, comment on opère. Ça veut dire, dans le côté entrepreneurial de l'histoire, mais dans le côté, effectivement, souvent on dit échec et rebondir, vous savez, les grands deux mots-clés, on va dire, qui existent. Comment vous avez enchaîné cela sur les 5 années? Vous aviez une activité
Exactement.
En parallèle. Comment ça se met
oui,
en place?
Oui, on avait toujours cette idée. Elle était là, elle mûrissait. Mais on s'est dit, c'est pas le moment. Le marché n'est pas prêt. Nous aussi, à titre personnel, on n'était pas prêts non plus.
C'est-à-dire pas du tout. Vous êtes allé trop vite, vous pensez?
On n'avait pas de ressources, en fait. On avait zéro ressource pour se lancer. On rentrait en France. Moi, j'étais même pas encore diplômée de Sciences Po. Pierre rentrait à peine de San Francisco. Donc, on s'est dit, on va déjà aller travailler un petit peu, se faire un peu d'expérience respectivement. Chacun, accumuler aussi un petit peu d'économie pour se dire que ça nous permettait d'avoir un petit matelas quand on allait se lancer aussi derrière. Mais on avait cette idée toujours qui traînait dans un coin de notre tête. Après, ça nous a pas empêché de faire chacun des boulots qu'on a adoré respectivement. Moi, j'ai travaillé dans la santé pendant ces 5 années-là. J'étais directrice de maison de retraite pendant 2 ans. Ah oui, là, on apprend énormément parce qu'en sortie d'école, j'avais 50 salariés, il y avait 80 résidents, j'avais 23 ans, donc c'est une bonne école.
C'est justement ça ce que j'allais vous dire, parce qu'à la vingtaine, quand même, être avec des personnes au niveau santé, pour avoir déjà, je pense, un mental un recul nécessaire aussi, mais en même temps d'être géré au niveau équipe, d'arriver à tenir le rythme dans tout ça. À la vingtaine, déjà, vous étiez dans une belle dynamique humaine. Les relations étaient effectivement compliquées, faciles. Vous vous êtes adaptée.
Ben, c'était pas facile. Hein. C'était loin d'être facile, effectivement, à la fois parce que le rythme est très intense, hein, quand même, pour un directeur d'établissement médico-social. Il y a les astreintes, la nuit, le jour, les week-ends. Il y a très peu de vacances. Donc, c'était hyper intense. C'était pas facile aussi parce que manager souvent des gens qui, évidemment, à 23 ans, étaient plus âgés que moi aussi. C'était pas une posture évidente à prendre.
Intergénérationnel, voilà. On revient là-dessus.
Exactement, puis c'est pas évident aussi, c'est pas des choses qu'on apprend à l'école en fait, hein, finalement, à Sciences Po. Moi j'ai appris énormément de choses, hein. Vraiment, c'est une superbe école, mais on n'apprend pas le management, on n'apprend pas cette gestion humaine-là qu'on ne peut apprendre finalement que sur le terrain. Je le vois encore aujourd'hui avec le Drive to Nu, c'est exactement la même chose, on fait des erreurs, on essaye de faire mieux la fois d'après, mais il y a vraiment cette école de la vie et du terrain qui est fondamentale et qui, moi, m'a vraiment aidée, mais j'ai toujours eu très envie d'apprendre en fait. Et c'est ça qui a vraiment, s'il y a un fil conducteur sur toute ma carrière, c'est cette envie de tout manger, en fait, de tout découvrir. Mais c'est vrai.
Mais c'est pas mal. En mots-clés, commun, c'est pas mal du tout.
Non, mais c'est vrai. J'ai vraiment envie de découvrir, d'apprendre et l'impact toujours au cœur de tout ça. Donc, que ce soit sur la vie des gens, avec les EHPAD. Puis ensuite, j'ai travaillé comme consultante auprès d'associations et de fondations qui faisaient de la recherche pour la maladie d'Alzheimer et les maladies neurodégénératives. Donc, encore une fois, on était dans l'impact, l'accompagnement. Puis ensuite, le Drive to Nu, qui est une autre forme d'impact. Mais voilà, cette envie d'avoir de l'impact sur la vie des gens et ce souhait vraiment très fort d'apprendre, de découvrir et de donner au maximum. Parce que quand on a 20 ans, qu'on sort de l'école, on a envie de faire ses preuves. C'est hyper,
vous avez réussi.
Un grand terrain de jeu.
Vous avez réussi, mais il y a quand même une certaine maturité que vous aviez. Alors vous allez me dire, oh lololo, vous me mettez à un niveau top. C'est pas ça, mais c'est dans le sens qu'il y a quand même maturité, novateur. Peut-être venant justement d'une expérience à l'étranger, le côté interculture, je pense, peut aussi jouer à ce niveau-là et bien évidemment générationnel, d'être en duo avec votre mari Pierre, mais justement sur ce côté très humain est devenu votre ADN. Comment vous êtes arrivé au fur et à mesure de dire bon bah voilà, Drive to Nu, très bien, mais bon, zéro déchet. Comment vous avez été accueilli par rapport à ce projet, parce que c'était quand même un peu le projet fou.
Oui, c'était un peu le projet.
Pourquoi vous êtes allé dans cette direction et comment vous avez été accueilli, justement?
Alors, c'est vrai que ce souhait de rien lâcher, il vient aussi du fait, moi, j'ai un parcours, j'ai toujours eu cette force de conviction, cette force de travail. Hein. J'ai passé 18 ans en danse classique, j'étais au conservatoire quand j'étais petite, enfin voilà, j'étais en formation
rigueur,
professionnelle, donc voilà, j'avais ce côté rigueur dont on a besoin dans les sports à haut niveau. Voilà, puis je me suis blessée à 18 ans, donc d'un coup, ça m'a ouvert le champ des possibles d'une carrière. Alors, heureusement que je travaillais bien à l'école, comme me disaient mes parents. Il faut bien travailler à l'école si jamais tu te blesses. Voilà, et c'est ce qui m'a permis ensuite de faire mes études. Et donc d'avoir tout ce cheminement-là et de toujours faire les choses avec conviction. Et voilà. Mais alors, c'est sûr que quand on est arrivé avec notre idée, en 2012, une première fois, alors là, tout le monde nous riait au nez complètement, nous disait, mais vous êtes complètement fous, ça n'existe pas. Voilà. Donc, on s'est dit, bon, c'est pas grave, on va quand même le garder dans un coin de la tête. On a travaillé. Et puis en 2017, c'est vrai qu'on s'est dit, on y va, on se lance. Et à ce moment-là, les gens continuaient de nous prendre un peu pour des fous, hein, parce que mettre du fromage ou du saumon dans un bocal,
c'était en dehors des codes.
Exactement, c'était en dehors des codes.
Et sur le côté, juste avant que vous ne continuiez, ça veut dire que sur le côté aussi, toute la partie financement était beaucoup plus structurée. Et c'est pour ça qu'on vous a mieux entendu et qu'il y a eu après donc, les levées de fonds. Mais là-dessus, au départ, c'était un manque de financement, simplement par rapport aux auditeurs qui comprennent, parce que beaucoup, on va dire, peuvent vous ressembler, pas autant dans le défi et le challenge, mais comprennent effectivement que, c'est bien d'être entrepreneur, mais on ne naît pas entrepreneur, mais il faut vraiment bien le cadrer.
Exactement.
Et de pouvoir bien préparer, c'est ça que vous voulez dire, qu'en 2017, si ça accrochait, c'était parfaitement structuré.
Exactement, c'est parfaitement structuré. C'est vrai que le fait d'avoir fait le parcours entrepreneur de Ticket for Change, à l'époque, ils nous ont dit, il faut aller tester votre idée, confronter au marché très vite.
Donc être accompagné avec d'autres personnes.
Exactement, être accompagné. Et c'est vrai que nous, on a fait une phase de test entre 2017 et 2018 qui nous a permis d'avoir des éléments très concrets, des chiffres clé sur notre panier moyen, sur notre nombre de commandes, sur le nombre de bocaux qu'on nous rapporte et sur le nombre de producteurs avec lesquels on travaillait. Mmh. Et le fait d'avoir quelque chose de très cadré, de très construit, une fois qu'on a été voir les financeurs, après qu'on a été voir les banques, eh ben on n'y a pas été au doigt mouillé, vous voyez, en disant on avait vaguement une idée et puis prêtez-nous de l'argent. Non, on avait quelque chose de structuré avec un business plan qui s'appuyait sur des hypothèses qu'on avait éprouvées. Et ça, ça nous a permis de, ben voilà, de faire un petit peu nos preuves et qu'on nous fasse un peu plus facilement confiance. Alors, bon, pas tout le monde nous a fait confiance.
Non. Non, mais de toute façon, à partir du moment où c'est un projet novateur, on le sait qu'aujourd'hui, de toute façon...
Il va falloir convaincre.
Voilà, même dans cet écosystème d'entreprise qui bouge et qui évolue, mais là-dessus, il faut toujours avoir le côté fiable, en tout cas, vous avez pu l'apporter.
Exactement, il fallait apporter la confiance.
Voilà, et la durabilité, parce que là, par rapport à cela, donc, quand vous avez présenté ça donc, au niveau donc, des bocaux, comment ça a été après donc accueilli? Parce qu'on vous donnait les financements, certes, mais après, vous vouliez bien évidemment garder cet aspect qualité.
Bien sûr.
Mais comment ça a été accueilli, justement?
Ça a été accueilli plutôt très bien par les consommateurs. Donc ça, on était très contents. Parce que c'est vrai qu'on a ouvert en 2018 à Bozelle. Et puis très rapidement, grâce à la presse qu'on a eue notamment. Alors la presse nous a fait un accueil qui était fabuleux. Et ça, ça nous a quand même permis, y compris d'ailleurs sur Radio Présence, de grandir et de faire grandir le projet. D'avoir de plus en plus de clients. Et puis, du côté producteur aussi, parce qu'il y avait tout ce travail. Nous, on a vraiment le double travail, à la fois de convaincre les consommateurs de venir, de faire leur transition vers une consommation zéro déchet responsable. On a le besoin aussi d'aller convaincre nos producteurs.
Alors, c'est peut-être là où c'était plus difficile.
C'était pas évident.
Sans
voilà.
faire de stéréotypes. Mais c'est vrai que, je sais pas, on a tous été élevés sur le fait de, c'est de la qualité. On met ça dans un beau plat ou on met ça, effectivement, comme, un fromager ou autre. Et là, tout d'un coup, c'est un bocal. Et un bocal, c'était plutôt le côté, la réserve, un peu la deuxième utilisation, on va dire ça comme ça.
Le garde-manger.
Le garde-manger, ça peut être.
C'est vrai.
Et comment eux l'ont-ils ils ont pris ça peut-être sous un côté respecter notre travail ou
non
je vais un peu trop loin.
Non, franchement, ça s'est globalement bien passé. Ce qui est pour les agriculteurs et les producteurs en local, c'était plutôt facile parce qu'en fait, ils ont une agilité de fonctionnement qui fait que c'est pas compliqué pour eux de se dire je passe de petits sachets plastiques à des grands seaux alimentaires dans lesquels je vous livre et ensuite vous mettez en bocaux. Ça, c'était pas très compliqué. Là où c'est plus difficile parfois pour nous, c'est de convaincre des plus gros fournisseurs, des plus gros distributeurs de changer parce que là, ils ont des gros investissements, de la grosse machinerie où ils mettent en sachets. Ils ont l'habitude de fonctionner comme ça. Changer leur modèle, ça leur demande d'investir, donc ils ont besoin de preuves, de débouchés. Donc c'est en multipliant les points de vente, en grandissant, en s'alliant parfois à d'autres acteurs de l'écosystème.
Donc c'est plus à ce niveau-là.
Voilà.
Mais le producteur, lui, de son côté, a été effectivement à l'écoute avec.
Oui.
D'accord.
Plutôt, mais d'ailleurs, parfois ça peut même les arranger parce que ça leur épargne pas mal de coûts en fait, finalement, de nous livrer directement dans des seaux alimentaires que eux récupèrent plutôt que de tout emballer individuellement. Comme les gens ont l'habitude de consommer. Et puis, ils savent aussi, et on en parle de plus en plus, les dégâts que fait le plastique et le fait que le plastique migre vers les aliments qu'ils produisent, en fait. Donc, cette démarche éco-responsable, ils y sont sensibles aussi. Et donc, le fait qu'ils savent que quand on le met dans du verre, c'est mieux conservé. Il n'y a pas de migration de perturbateurs endocriniens vers la nourriture ou vers les cosmétiques. Donc, c'est quand même plutôt vertueux. Donc, c'est quand même plutôt bien accueilli de leur part.
Mais cette partie, justement, là, donc, par rapport au Drive to New sur le côté novateur, oui, parce que le côté éco-responsable, là, c'est fait ces dernières années. On va dire que la crise, on ne peut pas dire autrement, mais de saisir les opportunités pour pouvoir avancer, quelque part, le comportement de chacun s'est modifié.
Exactement.
Et le côté éco-responsable, là, vous êtes pile. On va dire en réponse, en solution pour que justement le consommateur agisse différemment, un comportement, attitude différente.
Exactement.
Et là, donc maintenant, c'est la beige qui a effectivement le point nommé, qui se rapproche de nous où on peut effectivement opérer. Mais en tout cas, ça y est, Nord-Sud, ça y est, ça se met en place.
Ça se met en place et c'est vrai qu'il y a des études de l'ADEME qui montrent que 86% des Français veulent consommer de façon plus responsable. C'est juste qu'ils ne savent pas comment s'y prendre parce qu'aujourd'hui, consommer zéro déchet, c'est compliqué. Il y a très peu d'offres, elle est essentiellement concentrée dans les centres-villes. Moi, je vois avec les enfants, je me vois mal courir 50 points de vente, me trimballer trier mes sacs, mes trucs, à les peser moi-même. Voilà. Là, le côté je passe commande en ligne, je viens récupérer sous une heure, ou alors je vais au supermarché, à la beige, au super tout nu, je fais mes cours, j'attrape directement mes bocaux en rayon, je les mets dans mon caddie, je les charge et puis je rentre chez moi. C'est tout prêt, j'ai qu'à ramener la fois d'après. C'est quand même un confort avec tout au même endroit, tout sous le même toit. On a plus de 2500 références. L'idée, c'est qu'on puisse faire toutes ces courses. Et ça, c'est une simplification. Donc, on apporte, en fait, ça fonctionne parce que je crois qu'on apporte une vraie solution là où il y avait besoin. Il y avait un besoin de se dire, j'ai envie de consommer mieux. J'ai pas envie que ce soit trop compliqué. Ce que je peux comprendre, on a tous des vies très occupées. On est dans un contexte où, voilà, tout le monde bosse. Donc, voilà, il y avait ce souhait-là.
Mais c'est vrai que par rapport à ça, vous changez bien évidemment notre quotidien. Mais là, comme vous venez de le dire, vous êtes maman. comment vous arrivez à gérer tout cet ensemble par rapport à ce projet, en gestion de temps, en organisation, comment vous vous répartissez? Parce que c'est clair que y a une belle croissance et bravo, mais comment vous orchestrez tout cela? Parce que c'est quand même pas simple. Vous voulez donner et faire de votre mieux tous les deux, mais comment vous enchaînez?
C'est vrai que ça demande une sacrée organisation. Nous, quand on a eu envie d'avoir nos enfants, on s'est dit on va pas attendre un moment qui serait idéal. Enfin voilà. D'ailleurs, on l'a bien vu depuis qu'on a ouvert. Finalement, il n'y a pas vraiment de temps mort. Donc, heureusement qu'on n'a pas particulièrement attendu. Donc, c'est rentré dans notre quotidien. Avec bonheur, on les a accueillis tous les trois avec très peu d'écart en plus. Donc, évidemment que c'est une charge. C'est une charge d'âme et c'est aussi une charge organisationnelle. Il faut quand même le préciser. Mais c'est ça demande beaucoup d'organisation, donc c'est-à-dire qu'on a une bonne répartition des tâches entre Pierre et moi. On a eu, et je trouve que ce qui est chouette aussi, c'est que les enfants, ça cadre un petit peu. C'est-à-dire que nous, on avait l'habitude de travailler les week-ends, le soir très tard, voilà. Là, on sait que dans les moments où on est avec eux, c'est-à-dire de 17h, 17h30, qu'on va les récupérer jusqu'à 19h30, qu'ils soient couchés, on est avec eux. Et puis après, s'il faut ressortir les ordinateurs plus tard, on le fait plus tard. Mais voilà, ça demande de s'organiser, de bien séparer les temps. Et c'est vrai que ça, évidemment que c'est fatigant et tout ça, mais ça nous donne aussi beaucoup d'énergie. On sait qu'on fait ça pour eux aussi. Et moi, je me dis, j'espère que voilà, ils seront fiers de se dire que leurs parents ont essayé de changer un peu les choses dans le bon sens. Et surtout, on essaye de leur montrer qu'on peut avoir goût à ce qu'on fait, goût au travail, et qu'ils peuvent choisir le boulot qu'ils veulent et se le créer, voilà, s'ils ont envie. Donc bon, c'est sûr que c'est intense, mais nous, on prend ça avec beaucoup de bonheur. Alors après, voilà, c'est ça les inconvénients que parfois on peut pas forcément s'arrêter autant qu'on voudrait. Les congés maternité ont parfois été un peu écourtés. Mais voilà, j'insiste aussi sur le fait, en dehors d'être bien organisé, sur le fait qu'il faut avoir un bon réseau d'aide et de soutien. C'est vrai que nous, on a une famille qui est très présente. On a un réseau de garde aussi avec la crèche qui nous aide beaucoup. Donc, on n'y arriverait pas sans toutes ces personnes relais, les grands-parents. Et voilà, donc on fait pas ça tout seul et c'est quand même hyper important de le dire aussi, quoi. Bien sûr. Pas toute seule.
Et par rapport à cela, justement, quand vous avez lancé votre projet, parfois dans les familles, c'est « Mais attendez, c'est quoi votre projet? C'est complètement fou, ça ne marchera pas. »
Oui, on a beaucoup eu ça.
Oui, vous l'avez eu?
Ah oui, on a beaucoup eu ça.
Mais de famille, on vous a appuyé quand même avec des propos justement positifs, ou au contraire, c'était « Oh là, famille, vous allez où ?»
En famille, c'était...
Il faut les convaincre un petit peu.
Non, en famille, on a quand même, l'ensemble, ça a été vraiment... On a des parents qui ont été très soutenants. Mes parents un peu peut-être perturbés au départ parce que au moment où j'ai le fait de se lancer, c'était pas tant le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'était le fait d'y aller en famille, en couple. Ça peut aussi poser question dans les rapports
Plutôt affectifs, et eux d'avoir un regard
exactement, donc ils avaient un regard de vigilance, mais finalement pour nous, enfin tout ça venait de l'amour, donc voilà, mais non, ça a quand même été très bien accueilli et on s'est senti très soutenu, et encore aujourd'hui on se sent très soutenu, et ça donne beaucoup d'énergie d'ailleurs, heureusement.
Et au niveau du réseau, en revanche, dans les personnes qui vous entouraient, c'est là où où est-ce que vous allez? Il y avait ce côté vous alliez justement lever des barrières, on vous regardait d'un œil étrange, on va dire.
Exactement,
ça comme ça.
Oui, c'est vrai que ce soit sur des partenaires, que ce soit sur le cercle social en général, c'est vrai, quand on a dit on va se lancer ensemble, en couple, pour créer quelque chose qui n'existe pas, tout le monde nous disait mais vous êtes complètement fous, faites attention, enfin voilà. Donc il y avait pas mal de réserves. Mais bon, on a un petit côté fou tous les deux. Et,
oh, ça, c'est sûr. Là, chers auditeurs, que vous soyez à Auch, Rodez, Cahors, pas de problème, vous allez voir Salomé Géraud avec son mari. Pas de souci. Oui, oui, ce sont les défiants de tous les challenges. Mais alors, justement, cette durabilité, c'est toute une équipe.
Évidemment.
Donc, alors, vous gérez combien de personnes et comment ça s'opère? Parce que le côté, on me disait tout à l'heure, éco-responsable, interculture, relations intergénérationnelles, comment ça s'opère? Comment chacun trouve sa place dans cet univers?
Aujourd'hui, on gère une cinquantaine de personnes dans l'aventure du Drive to New. Alors, ce qui n'est pas évident, c'est qu'on gère des gens qui ont des profils très différents. À la fois des gens qui sont dans l'équipe support, donc là, on a beaucoup de cadres. On gère aussi des personnes qui sont sur le terrain, donc des préparateurs de commandes, responsables de magasins. Donc ça, ce n'est pas évident, ce n'est pas la même manière de manager. On gère aussi des gens qui sont à Lille, à Bordeaux, à Toulouse. Donc ça aussi, ce n'est pas facile de créer une équipe et de communiquer ce même ADN partout en France. Et demain, l'idée, c'est de l'implanter ailleurs encore. Donc voilà, comment est-ce qu'on garde cette culture d'entreprise? Donc, pour le management, je crois qu'on essaye. Alors déjà, on s'est bien entouré, ça c'est hyper important. On a quand même des gens en termes de management intermédiaire qui gèrent nos équipes. C'est vrai que généralement, maintenant, quand les problèmes remontent jusqu'à nous, c'est qu'ils sont plutôt très pénibles. Mais voilà, on a une super équipe. Et c'est vrai qu'on essaye au maximum d'être là, d'être à l'écoute, d'être humain. Et puis, voilà, de faire de notre mieux. Évidemment, on se trompe. Hein, on s'est trompé plein de fois, que ce soit dans des recrutements ou parfois dans la façon de faire. Mais on essaye d'apprendre au fur et à mesure. On a beaucoup de... On est plutôt résilient, je crois, et on est surtout plutôt humble par rapport à tout ça. Et on se dit qu'on a encore beaucoup à apprendre. Donc voilà, on s'entoure. On s'est fait coacher aussi par une médecin psychiatre qui est coach pour les dirigeants d'entreprise, qui nous a beaucoup appris aussi sur le management. Et donc voilà, on essaye de faire de notre mieux. C'est pas facile. Je trouve que c'est la partie la plus difficile, la partie humaine. Parce que c'est la plus belle, mais c'est aussi la plus difficile parce que ben voilà, il y a tout un tas de profils, les gens ne viennent pas pour la même chose, ne restent pas pour les mêmes choses.
Alors justement, voilà. Ne restent pas pour la même chose. On sait que c'est le sujet quand même important. De venir dans une entreprise que chacun ait son rôle, trouve sa place, pas de problème. Et justement, à Drive to New, les personnes qui arrivent reste. Alors vous dites que vous êtes parfois trompé, mais c'est clair que d'avoir trouvé la bonne personne n'est pas simple. Mais que la personne ait envie de rester, à votre avis, justement, il reste, mais pourquoi?
C'est vrai qu'on a de la chance, qu'on a une équipe qui est quand même très stable et je pense qu'il reste à la fois parce que l'équipe est très chouette et qu'il y a une très très bonne ambiance. Tout le monde travaille très dur, mais tout le monde est très exigeant, mais tout ça se fait dans beaucoup de bonne ambiance. Voilà, et ça, c'est quand même très chouette. Donc, je pense qu'il y a ça et puis il y a le fait du sens aussi. Enfin, c'est plus facile évidemment pour nous de garder, de motiver des gens qui viennent au Drive to New que pour la grande distribution classique. Voilà, il y a un supplément d'âme évidemment quand on sait qu'on se lève le lundi matin pour aller contribuer à changer les choses, contribuer à changer les modes de consommation. Forcément, ça donne un petit supplément de motivation, je crois, qui fait que les gens ont envie de se donner, sont attachés au projet. On a des gens qui sont avec nous depuis 2018. Donc ça, c'est magique, des gens qui ont évolué avec le projet. Ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de faire évoluer les gens avec l'entreprise. Donc, il y a des personnes qui étaient préparatrices ou préparateurs de commandes en 2018 qui aujourd'hui sont responsables d'équipe, qui sont responsables logistiques. Donc, ça...
Il y a une progression au niveau de leurs compétences. Une volonté de leur part pour dire bon, voilà, ça m'intéresserait, et donc d'être de votre part, de votre côté, à leur écoute et de voir, on peut peut-être déplacer, faire un peu comme un pulse humain, bien évidemment, mais être à l'écoute et de voir qui peut être à un autre poste.
Et on a des managers qui sont très, très doués pour ça, pour repérer les talents et qui ont vraiment une vision carrière dans l'entreprise. Et ça, c'est magnifique parce que du coup, on voit des gens qui évoluent et c'est très, très chouette. Et je trouve que ce qui est très chouette aussi, parce qu'on parle de femmes ici, c'est quand même que nous, à la tête de la majorité de nos établissements, plus dans l'équipe support, on a une grande majorité de femmes. Et dans la distribution, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, c'est bien de le dire aussi parce que rien n'est fermé, aucun poste n'est fermé. Et ça, je trouve ça magnifique, quoi, de voir que ce soit en préparatrice de commandes, en responsable de magasin, en cadre de l'équipe support ou à la tête de l'entreprise, ben voilà, il y a des femmes de partout et elles savent tout faire.
Ah, vous avez entendu, chers auditeurs, il y a des femmes de partout, elles savent tout faire. Non, mais c'est justement pour ça que je suis ravie que vous m'ayez répondu dans la positive sur votre venue, parce que justement, c'est les personnalités avant que les femmes entrepreneurs m'intéressent, mais plus plus ce côté décalé que vous justement vous apportez, et puis cette énergie, ça s'entend de toute façon à votre voix. Mais c'est clair que oui, il y a des femmes qui réussissent. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est acharnement, persévérance et délicatesse, mais c'est possible.
C'est possible.
Et là, vous le prouvez pleinement à ce niveau-là.
Et je crois qu'on est dans un beau moment pour ça aussi, parce qu'on fait une belle place aussi aux femmes. Moi, je vois, j'ai eu beaucoup de chance, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour accompagner les femmes, notamment dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de prix, il y a beaucoup de mise en avant des femmes aussi dans les médias. Et je trouve que c'est magnifique parce que c'est ce qui permet aux autres de se projeter derrière elles. Et c'est vrai que moi, c'est d'écouter des histoires de femmes, en fait, qui ont réussi à faire ce qu'elles voulaient, en fait, tout simplement, et qui témoignent d'être heureuses dans ce qu'elles font, qui m'ont donné envie aussi, moi, de me lancer en projetant le fait que c'était complètement possible. Donc, c'est hyper important, je crois, de raconter ces histoires-là.
Ah, c'est pas mal comme mot de fin, d'écouter les femmes qui donnent envie d'aller plus loin. Ben là, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Donc, merci infiniment de votre effectivement venue. Mais ce qui me va bien dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, le côté de femme novatrice, c'est justement de pouvoir démontrer que c'est on peut avancer, on peut construire, et puis rester, quoi. C'est pas si vous avez levé des barrières, vous avez réussi avec une équipe qui vous suit. Alors, j'ai bien entendu 50 salariés, mais j'imagine qu'à un moment donné, 70, 100, 120, 250.
C'est l'idée des prochaines années, voilà.
C'est un peu le profil. En tout cas, félicitations par rapport à ça. Quand je vois d'où vous venez, sur effectivement le côté santé, vous êtes rencontrée à San Francisco. Alors ça, je trouve ça très... on va dire romantique, mais je trouve ça génial. Il n'y a pas de hasard non plus.
Bien sûr.
Et cette durabilité, aussi bien perso pro, franchement, bravo. Mais ce côté éco-responsable, vous changez véritablement notre quotidien. Et merci infiniment de toute cette énergie. Je pense qu'il va énormément amener les gens à être dans le... Allez, on y va, on a la niaque et on continue.
Exactement. Je pense qu'on peut avoir ce mot-là de se dire qu'on a quand même 80 000 heures à passer à travailler, autant les mettre au service de quelque chose qui à la fois nous rend heureux et qui à la fois peut changer un peu les choses dans le côté positif. C'est un bon moyen de se lever le lundi matin, je crois.
Parfait. Bah écoutez, chers auditeurs, vous avez que du positif. En tout cas, à la semaine prochaine.